Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour. Éclairage aujourd'hui se propose d'être au carrefour de l'actualité à travers l'œuvre d'un grand personnage, d'un grand écrivain. L'actualité américaine, tout d'abord, puisque nous sortons des élections présidentielles, mais aussi l'actualité française, marquée par la brûlante question de la laïcité. Nous anticiperons d'ailleurs la commémoration de la séparation de l'Église et de l'État, dont nous allons beaucoup parler à l'Académie des sciences morales et politiques l'année prochaine. Alors, quelle est l'œuvre, quel est cet homme, quel est cet écrivain qui se situe à ce carrefour de l'actualité française et américaine? Il s'agit, vous l'aurez peut-être reconnu, d'Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville n'a pas 30 ans quand il traverse l'Atlantique en 1831 pour explorer les États-Unis. De ce voyage, il écrira une œuvre majeure, reconnue que depuis malheureusement fort peu de temps, il s'agit du livre « De la démocratie en Amérique ». Tocqueville appartient au 19e siècle et salue l'émergence et le développement de la démocratie qui l'accompagne, mais son œuvre se distingue par l'énumération des dangers qui menacent le régime politique. Non pas des dangers extérieurs, mais bien des dangers intérieurs propres donc à sa nature. Qui fut donc Alexis de Tocqueville? Quelle analyse fait-il de la démocratie? Quel rôle peut jouer la religion dans un État démocrate? Autant de questions que notre invité Agnès Antoine va aborder pour nous. Agnès Antoine, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur de philosophie à l'École des hautes études en sciences sociales et vous venez de publier L'impensé de la démocratie, Tocqueville, la citoyenneté et la religion aux éditions Fayard. C'est un livre qui est paru l'année dernière. Alors, ce livre vient d'être récompensé par un prix de l'Académie des sciences morales et politiques, le prix Gegner, qui est un prix annuel destiné, je cite, à un écrivain philosophe qui sera signalé par des travaux qui peuvent contribuer au progrès de la science philosophique. Alors, progrès de la science philosophique, mais j'allais dire progrès aussi de l'aspect religieux dans ce vaste domaine qu'est la philosophie, car votre livre est un livre porté vers la pensée religieuse de Tocqueville. Et ça sera ma première question. Comment en êtes-vous arrivé là? Comment en êtes-vous arrivé à ce sujet, ma foi, qui est mal connu de l'œuvre de Tocqueville?
Eh bien, si vous voulez, j'ai commencé par travailler sur beaucoup d'auteurs du 19e siècle, du premier 19e siècle en particulier, qui sont des personnes qui ont expérimenté existentiellement le fait de passer à un tout autre univers social et politique. Et donc, qui ont eu en fait une réflexion du même coup très clairvoyante, un regard plein d'acuité finalement sur ce qui était en train de se mettre en place, cette société démocratique, pas encore complètement démocratique, mais en voie de le devenir, et qui du coup, à mes yeux, sont particulièrement éclairants pour comprendre notre période à nous, dans la mesure où aujourd'hui nous sommes dans des institutions évidemment démocratique. Nous avons l'habitude de vivre à l'intérieur de ce type d'existence collective et nous sommes à la limite presque trop dedans. Donc nous n'avons plus, je dirais, la même distance pour analyser en fait les caractères de ce type d'existence. Alors, pourquoi la question religieuse? Eh bien, il se trouve qu'aux yeux de tous ces écrivains, de tous ces penseurs, c'est la question qui a surgi après le grand bouleversement engendré par la Révolution française, avec donc le nouveau type d'organisation sociale et politique qui se met en place progressivement. Au fond, si le fondement de la société n'est plus d'ordre religieux, si la religion n'est plus au fondement, au principe même de l'organisation sociale, alors que devient-elle ? Quel est le rôle finalement du christianisme dans cette affaire-là? Est-ce qu'il faut réinventer quelque chose, renouveler en quelque sorte le christianisme, ou est-ce qu'au contraire il faut l'abandonner comme une religion trop liée à l'Ancien Régime? Est-ce qu'au contraire, la démocratie n'est pas étroitement liée aux principes et aux valeurs qu'a véhiculé la culture chrétienne? Enfin, toutes sortes de questions qui vont surgir à ce moment-là et qui occupent beaucoup les esprits.
Mais alors, pourquoi Tocqueville?
Alors, Tocqueville, dans cette affaire-là, eh bien, Tocqueville, parmi tous ces écrivains, est peut-être celui qui a le regard le plus perçant sur ce qui est en train de naître, dans la mesure où il appartient par sa naissance au milieu aristocratique. Donc il connaît de l'intérieur, en quelque sorte, l'ancienne société, même si, il n'est pas directement de la génération qui a connu la Révolution française et donc qui est passée de l'ordre ancien à un ordre différent, fondé sur l'égalité. Mais par sa famille, par son milieu, il connaît en quelque sorte le principe même de fonctionnement de l'ancienne société et il peut mesurer l'extraordinaire nouveauté de ce qui est en train de se mettre en place. Et il a eu ce regard comparatif particulièrement important pour nous aujourd'hui, puisque finalement sa clé de lecture de la société démocratique va être dans ce travail de comparaison avec l'ancienne société, et donc dans une sorte de balancement permanent de l'analyse, avec un regard donc qui va caractériser la société démocratique par le principe de l'égalité et de l'égalité des conditions. Et puis, finalement, toutes les sociétés qui ont précédé la démocratie moderne, à partir du principe d'inégalité, le principe de hiérarchie, qui caractérise les anciennes sociétés. Et alors, Tocqueville va non seulement essayer de décrire ce qui est en train de naître, mais aussi il va être d'emblée intéressé finalement par les risques peut-être de la nouvelle condition démocratique. Et il a avoué lui-même qu'au fond, souligner les avantages de la démocratie était une chose, mais peut-être s'interroger sur les failles possibles et les risques qui pouvaient se redessiner pour la liberté humaine, y compris dans un régime de liberté politique tout à fait inédit dans l'histoire humaine. Que c'était ça qui était peut-être important.
C'est ce qui vous a attiré chez lui,
le fait qu'il
cherche
attiré...
les failles et qu'il est un...
Oui.
Nous allons y revenir, bien évidemment, sur cet aspect visionnaire. Il voit le XXe siècle, tout homme du XIXe qu'il est. C'est cette capacité de recul sur les événements, les hommes et les idées qui vous a amené chez lui.
C'est effectivement cette analyse puissante, finalement, sur ce qu'on peut appeler la condition démocratique, hein, c'est-à-dire la forme d'existence en régime d'égalité et la manière dont, finalement, ça structure nos existences sans que nous en soyons forcément conscients. Donc, cette espèce de diagnostic très précis sur notre condition d'existence et, en même temps... après avoir aperçu donc les risques possibles, le fait que Tocqueville propose des remèdes, ce qui finalement n'est pas suffisamment souligné en général. Hein, on insiste volontiers sur son aspect critique, sur sa description nuancée de la démocratie, sans peut-être suffisamment prendre en compte le fait qu'il a vraiment cherché à apporter un certain nombre de réponses et à orienter en quelque sorte à la fois les législateurs, les moralistes, dans une certaine direction.
Alors nous allons y revenir, oui. Agnès-Antoine, si vous le voulez bien, tout à l'heure. Peut-être pour replacer pour nos auditeurs le personnage Tocqueville, quelques mots de sa biographie au fond. Quelle est sa formation tout d'abord?
Alors il a fait des études de droit. Et il commence d'ailleurs à exercer un métier comme juge auditeur à la cour de Versailles, ce qui le passionne moyennement, visiblement. Il avait déjà commencé à se passionner pour une forme d'histoire philosophique en suivant les cours de Guizot avec son ami Gustave de Beaumont. Et puis, il va y avoir cet événement majeur à l'époque de la Révolution de 1830. Et là, avec l'avènement de Louis-Philippe, Tocqueville va avoir à se poser la question de l'allégeance au régime.
Voilà, puisque, en tant que magistrat,
il doit prêter serment au nouveau régime. Il va le faire.
À contre-cœur.
Un petit peu à contre-cœur et au grand dam de sa famille. Il va le faire, mais finalement, sa place dans le régime qui est en train de se mettre en place n'est pas, ne sera pas forcément de premier plan s'il reste là où il est. Et c'est quelqu'un qui est plein d'ambition à ce moment-là.
Et il est très précoce. Quand, en 1830, il a 25 ans. C'est extraordinaire d'avoir une telle vision des choses déjà à cet âge-là.
Mais je pense que la grande force de Tocqueville, c'est finalement que toute cette interrogation qu'il déploie à travers sa pensée, y compris la plus aboutie, celle qu'on retrouve dans l'Ancien Régime et la Révolution, sa dernière œuvre, son questionnement est ancré vraiment sur une expérience existentielle forte. De ce passage d'un monde à l'autre. Et je pense que ces interrogations étaient très précoces et il se nourrit de tous les débats intellectuels de la Restauration qui sont très riches sur cette question. Ça apparaît peu directement. Hein. Souvent, on a dit que Tocqueville n'avait rien lu en quelque sorte et qu'il aurait découvert finalement
tout aux États-Unis.
Bon, de mon point de vue, pas du tout. Je pense qu'il a...
Il est dans une
certainement
famille...
déjà beaucoup oui. entendu. Mmh.
Il est dans une famille qui est très marquée par le fait politique.
Son père a une carrière politique et préfet dans différentes villes sous la Restauration. Et puis,
il sera pair de France, je crois, son père, non ?
Oui, je crois bien. Surtout, en fait, on voit que très tôt, Tocqueville s'interroge finalement sur un peu à la manière dont l'a fait Chateaubriand, mais avec une génération de différence. Et donc, il ne s'agit plus de regarder avec mélancolie
le
fleuve de l'ancien monde s'écouler et s'en aller, mais il s'agit pour quelqu'un de jeune et qui a envie d'avancer, d'entrer de plein pied finalement dans cette modernité redoutée.
Alors, en 1831, il a cette opportunité d'aller aux États-Unis, c'est bien cela ?
En fait, ils vont trouver l'opportunité, Gustave de Beaumont et lui-même...
De fuir cette allégeance à
Louis-Philippe. Ils prêtent serment tout de même. Et puis, ils ont l'idée de s'éclipser, en quelque sorte, avec deux ambitions. Enfin, je dirais cette curiosité, évidemment, personnelle de Tocqueville sur la démocratie et l'idée d'aller voir comment ça se passe dans un grand pays qui fonctionne. Alors, grand, je dirais, relatif, c'est pas les États-Unis d'aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait déjà tout un débat depuis le XVIIIe siècle sur la fiabilité, la capacité finalement des grands États à s'organiser sur le plan démocratique. Il y avait tout un mythe qui voulait que ce soit associé à la cité antique et qu'on ne puisse pas organiser de république dans les grands États. Bon, et là, Tocqueville va aller regarder comment ça se passe dans un État moderne. Et puis, il y a l'idée de se distinguer. C'est-à-dire qu'au fond, la carrière de juge au tribunal sous le régime constitutionnel de Louis-Philippe risque de l'enterrer dans un coin. En revanche, revenir avec quelque chose, il ne sait pas encore très bien quoi, un ouvrage peut-être, peut réussir à faire parler de soi et à accéder à une carrière politique. Car au fond, c'est ce qu'il souhaite au départ. Et au moment où, dont on parle, 1830, il n'a pas l'âge d'éligibilité pour devenir député, alors qu'à son retour, quand il publiera La démocratie en Amérique et qu'il y aura à ce moment-là, il aura toute une notoriété presque immédiate, il va pouvoir, dans les années qui suivent, accéder à cette carrière politique, précisément.
Éclairage reçoit Agnès Antoine, auteur du livre « L'impensé de la démocratie, Tocqueville, la citoyenneté et la religion » paru aux éditions Fayard. Nous nous retrouvons, Agnès Antoine, si vous le voulez bien, après une première pause.
Canal Académie. Vous écoutez Canal Académie. On retrouve Christophe Dikès.
Éclairage reçoit Agnès Antoine, prix de l'Académie des sciences morales et politiques, un prix, le prix Gegner, qui est un prix récompensant un écrivain philosophe. Et Agnès Antoine est l'auteur en fait du livre « L'impensée de la démocratie, Tocqueville, la citoyenneté et la religion » paru aux éditions Fayard. Alors nous évoquons cette personnalité trop peu connu malheureusement de Tocqueville, pourtant qui depuis quelques années revient sur le devant de la scène. Alors nous étions dans l'histoire chronologique, il est parti en 1831 aux États-Unis et il revient de ce voyage et il commence à rédiger l'œuvre, enfin une de ses œuvres majeures, si ce n'est l'œuvre majeure, en tous les cas c'est l'œuvre qui sous-tend tout votre livre, c'est le livre de la démocratie en Amérique. Ce livre paraît à deux dates différentes, puisqu'il y a deux volumes. C'est bien cela ?
Oui. Alors, Tocqueville fait paraître un premier volume, enfin, ou plutôt écrit déjà un premier volume qui fait paraître en 1835. C'est un volume où il va en fait décrire ces fameuses institutions américaines. Pour aller très vite, on pourrait dire Tocqueville a rencontré la démocratie, elle existe, il l'a vue et il montre comment en fait ça fonctionne, ça peut fonctionner. Donc il y a un but de persuasion hein, par rapport à tous ceux qui seraient encore frileux et qui douteraient des possibilités d'instaurer véritablement des institutions démocratiques en France et même qui voudraient retourner en arrière. Alors, il y a cet aspect-là dans ce premier volume. Tocqueville y annonce une deuxième partie de son travail, puisqu'il dit que l'égalité, ce principe fondateur de la démocratie, n'influence pas simplement, finalement, les institutions politiques, ne fait pas simplement naître des nouvelles institutions politiques, mais façonne les êtres humains, à proprement parler, que c'est d'abord une forme d'organisation sociale, avant même d'être une forme d'organisation politique, et que cette forme d'organisation sociale est tout à fait déterminante pour la manière dont, finalement, l'être humain vit, pense, se comporte. Et il annonce donc un travail où il montrerait comment l'égalité influence à la fois les sentiments et les idées des hommes.
Est-ce qu'on peut dire dès lors que le deuxième volume est plus intéressant que le premier volume ?
Le deuxième volume, il va l'écrire entre 1835 et 1840, il va le faire paraître plutôt en 1840. C'est un volume plus philosophique. Dans un brouillon, Tocqueville écrit à propos de son premier volume « Ouvrage plus américain que démocratique » et le second volume « Ouvrage plus démocratique qu'américain ». Effectivement, on voit qu'il va se détacher progressivement du cas américain, du cas de la démocratie américaine, pour passer à un niveau de généralité supérieur et réfléchir vraiment à l'essence de la démocratie et de l'existence en vie démocratique. Et ce volume, à nos yeux, aujourd'hui, est certainement le plus intéressant, puisque il nous parle de notre condition, mais il a beaucoup décontenancé les contemporains. Ce qui fait que autant Tocqueville a eu un grand succès en publiant son premier ouvrage de 1835, autant celui de 1840 a eu un succès moindre.
Pourtant, c'est le plus intéressant.
Peut-être à cause de son aspect prophétique et visionnaire. Ouais. Peut-être que les contemporains ne se voyaient pas dans ce que lui décrivait, parce qu'au fond, ce qu'il décrivait n'était peut-être pas encore complètement installé. Quand il parle, par exemple, des risques d'un trop grand individualisme, peut-être que l'individualisme n'était pas arrivé au stade où nous l'avons vu se développer aujourd'hui.
Alors, il faudra attendre Raymond Aron, c'est-à-dire plus d'une centaine d'années, pour redécouvrir cet aspect de l'œuvre de Tocqueville. Comment expliquer
Alors, sa dernière œuvre, L'Ancien Régime et la Révolution, qui paraît en 1856, a eu aussi un succès important, mais à la limite, c'est une œuvre de facture historique, donc un petit peu différente. Et puis, effectivement, Tocqueville va progressivement tomber à la trappe, en quelque sorte.
Nul n'est prophète en son pays.
Nul n'est prophète en son pays, et surtout, son pays va prendre peut-être une autre direction par rapport au type de philosophie politique, on pourrait dire, au fond, que défendait Tocqueville.
Il meurt très jeune.
Il meurt très jeune, avec une œuvre qui, finalement, mettait en avant, de façon assez indirecte, finalement, mais une sorte de critique de l'État jacobin. Donc une vision où finalement la société civile est beaucoup plus présente dans l'ordre politique à travers toute sa réflexion sur l'association, on le verra. Une ouverture à la place du religieux dans l'espace civil. Toutes sortes finalement de manières de voir qui ne rencontrent pas ce qui va se mettre en place comme rapport entre politique et religion ou politique et modernité avec la Troisième République. Hein, finalement la laïcité telle qu'elle va se mettre en place à ce moment-là, prend une direction différente. Et je pense que c'est en partie ce qui a pu finalement écarter la pensée de Tocqueville, trop critique finalement peut-être par rapport à la démocratie pour l'esprit républicain d'alors. Et puis, bon, effectivement, un long oubli. Et c'est dans les années 60, donc dans un contexte un peu de guerre froide, du point de vue des idéologies, que Tocqueville va ressusciter en grande partie grâce à Raymond Aron, qui en fait, dans son ouvrage sur les étapes de la pensée sociologique, qui paraît, je crois, en 67, un penseur majeur de ces étapes. Hein. Il commence avec Montesquieu et puis il enchaîne. Il y a Auguste Comte, Marx, Tocqueville. Voilà. Et on va s'intéresser à nouveau à Tocqueville, évidemment, grâce à ce travail de Raymond Aron. Mais ça sera beaucoup le Tocqueville de la, si on peut dire ainsi, de la première démocratie en Amérique, enfin du premier volume de la démocratie. Et à Tocqueville, qui est assez tiré du côté de Montesquieu, de l'homme, finalement, d'une forme de constitutionnalisme politique, de réflexion sur les libertés, l'équilibre des pouvoirs, la manière dont ça fonctionne aux États-Unis, etc. Et puis aussi sur le plan méthodologique, dans la mesure où tout part chez Tocqueville d'une réflexion sur la liberté, l'individu, l'importance de l'individualité, on pourrait dire, à un moment où les sciences sociales sont très marquées par le marxisme, des formes de lecture de l'histoire très déterministes, et où la pensée de Tocqueville apparaît sur le plan méthodologique, à la fois pour les historiens, pour les sociologues, une manière de réintroduire une approche beaucoup plus centrée sur l'individu et la liberté individuelle. Alors depuis, je dirais, son destin n'a fait que s'affirmer sur la scène intellectuelle. Bon, parmi les sociologues, je dirais, et d'ailleurs anthropologues aussi, Louis Dumont a beaucoup utiliser Tocqueville et à contribuer à le faire lire autrement et à s'intéresser plutôt à ce second volume et à cette opposition, à cette lecture entre les sociétés égalitaires et les sociétés fondées sur la hiérarchie. À partir de lui, beaucoup de philosophes, Claude Lefort, Marcel Gauchet, Pierre Manant, autour de l'historien François Furet, très ouvert lui-même à la philosophie, ont travaillé cet aspect de l'œuvre de Tocqueville et vraiment cette réflexion sur la condition démocratique. Et puis ces dernières années, alors bien sûr la lecture de François Furet sur la Révolution française aussi, enfin côté historien, parmi donc une sorte de remise en cause de toute une vulgate des travaux français sur la Révolution française. Bon, et François Furet s'est appuyé évidemment beaucoup sur l'œuvre de Tocqueville. Et puis alors plus récemment, une sorte d'intérêt pour ce qu'on pourrait appeler Tocqueville philosophe. Moi-même, j'ai pris cette option d'essayer de montrer que... il y a vraiment une dimension philosophique à cet homme, une cohérence philosophique, et qu'il mérite de figurer dans le canon de la philosophie. Et je pense que y a beaucoup, enfin, c'est un peu dans l'air de notre temps d'aller dans cette direction-là aujourd'hui. Ouais. Oui.
Il apparaît vraiment, et d'ailleurs c'est la qualité de votre livre, Jean Ménard de l'Académie des sciences morales et politiques le soulignait, il y a une culture pluridisciplinaire chez Tocqueville, et dans votre livre, vous touchez autant à l'histoire. Bien sûr, vous avez la maîtresse philosophie, mais vous touchez autant à l'histoire qu'à la critique littéraire, qu'à la pensée politique, et à la sociologie. Est-ce qu'au fond, c'est ce qui rend Tocqueville inclassable?
Tocqueville écrit à une époque où les disciplines déjà ne sont pas autant séparées qu'aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime bien d'ailleurs le qualifier de moraliste, qui est une expression difficile à définir.
Plutôt que philosophe.
Mais derrière laquelle on met assez facilement un certain nombre d'auteurs, tous aussi inclassables les uns que les autres. Pensons par exemple à Montaigne, pensons à Pascal, à Montesquieu, à Rousseau.
On reviendra sur Pascal.
Qui sont finalement des auteurs qu'on finit par n'étudier nulle part, alors que ce sont des auteurs absolument majeurs, mais tantôt relégués à la littérature, tantôt à la science politique, philosophes, mais sans être vraiment reconnus par les philosophes. Vous voyez, Tocqueville, je pense, se situe bien dans cette lignée. Effectivement, d'une réflexion, enfin, Raymond Aron avait tout à fait raison de le mettre dans les fondateurs de la pensée sociologique, mais à mes yeux, Tocqueville est aussi un moraliste et même un métaphysicien. Il est légitime pour les politologues aussi de revendiquer un Tocqueville du côté de la science politique, nous en parlions tout à l'heure, Tocqueville vient d'être mis cette année au programme de l'agrégation de lettres, ce qui est une manière très officielle de reconnaître aussi sa dimension d'écrivain. Voilà, donc peut-être qu'il ne faut pas mettre des étiquettes trop vite. Moi, j'ai essayé de montrer le Tocqueville philosophe pour essayer de sortir d'un certain nombre d'interprétations qui, à chaque fois, vont justement trouver dans Tocqueville un certain nombre d'éléments intéressants qui vont être mis en avant à différentes fins, au détriment d'une cohérence, et pour montrer que cette cohérence a quelque chose à nous dire. C'est-à-dire que quand on va jusqu'au bout de la pensée tocquevillienne et qu'on rassemble à la fois son analyse de la société démocratique, à la fois ses réflexions sur la citoyenneté et la participation politique, son regard sur la religion dans la démocratie. Tous ces points de vue sont certes très intéressants, mais au fond, qu'est-ce que ça donne quand on met tout ça ensemble? Et qu'est-ce que ça nous dit au-delà?
C'est-à-dire que vous avez, si vous me permettez l'expression, une vision plus globale qu'auraient certains auteurs.
En tout cas, ça a été mon point de vue. Ça a été mon point de vue.
Alors, quelle est la pensée de Tocqueville sur la démocratie, Agnès Antoine? C'est ce que je vous propose de voir après une seconde pause.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio-Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques, les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année. Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, leur donne la parole. Connectez-vous sur www.canalacademie.com et écoutez. Toutes les générations se retrouvent sur Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves, plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les sur Canal Académie, la première radio académique francophone. www.canalacademie.com.
Christophe Dickès.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie, l'émission Éclairage, et je reçois Agnès Antoine, auteure du livre L'impensé de la démocratie, primé cette année à l'Académie des sciences morales et politiques, paru aux éditions Fayard. Alors, nous en venons, si vous le voulez bien, Agnès Antoine, à la nature, à la pensée politique de Tocqueville. Tocqueville dit que dans la démocratie, il y a un fait générateur, c'est l'égalité des conditions, et c'est un mouvement que l'on ne peut arrêter. C'est bien cela ?
Oui, tout à fait. Certains d'ailleurs voudraient l'arrêter, et Tocqueville va essayer de montrer que c'est un mouvement qui vient de loin dans l'histoire. Il va resituer l'idée d'égalité dans son lien avec le christianisme, et puis évoquer cette avancée curieuse de cette idée qui avançait fort lentement, mais de façon presque inéluctable. Il va même lire cette histoire de l'égalité comme un fait providentiel, quelque chose de l'ordre de la providence, qui en a à la fois le caractère de nécessité et d'inéluctabilité. Ceci pour montrer qu'on ne peut arrêter ce mouvement. Alors, pourquoi on ne peut arrêter ce mouvement ? C'est un mouvement qui conduit finalement la conscience humaine dans un mode finalement de représentation de l'autre qu'elle ignorait antérieurement et qui conduit finalement à considérer l'autre homme comme un semblable. Et Tocqueville va montrer que pour que cette idée finalement prenne force, et c'est la raison pour laquelle elle a mis tant de temps à, en quelque sorte, prendre force, il faut qu'elle prenne chair, en quelque sorte. Et c'est l'égalité des conditions qui inscrit, en quelque sorte, dans le social, d'abord, cette idée, avant même qu'elle prenne son développement dans d'autres sphères de l'existence humaine. Égalité des conditions, c'est-à-dire abolition de toute forme de privilège, de distinction entre les hommes, de classification, dit encore Tocqueville, j'aime bien cette expression, elle est très parlante, toute forme de classification entre les hommes disparaît, ou du moins se relativise, du même coup va surgir un mode d'être ensemble, une forme de représentation de soi aussi, différente des époques passées. Alors c'est le point de départ.
Hein. C'est le point de départ. Oui, si vous voulez bien, Agnès Antoine, on va avancer parce que malheureusement le temps nous fait défaut. Vous écrivez « La société démocratique, quant à elle, a plutôt tendance à ne voir que ses propres qualités. Et c'est en général le problème des amis de la démocratie que de n'avoir pas suffisamment conscience des menaces contenues dans la détermination démocratique. » Donc il y a cette détermination démocratique. Et la grande qualité de l'œuvre de Tocqueville, c'est de montrer les dangers, les pièges dans lesquels la démocratie peut tomber. Quels sont ces pièges, en quelques mots ?
Alors, c'est vrai que c'est un grand paradoxe. C'est un régime, finalement, de liberté tout à fait inédit dans l'histoire humaine. Et en même temps, Tocqueville va essayer de montrer qu'il peut se produire, finalement, d'autres formes d'esclavage qu'on ne soupçonne pas. Et il va essayer de les mettre en avant. Alors, quels sont ces risques?
Je me permets de vous couper. Vous parlez d'esclavage et page 310 de votre livre, vous dites quelque chose qui est très fort. La théorisation scientifique du racisme est, estime Tocqueville, un produit de la société démocratique. Bien que cette doctrine restaure l'inégalité entre les hommes, elle satisfait la tendance matérialiste des esprits et des cœurs propres à la société égalitaire. Ça, c'est un des pièges dans lesquels elle peut tomber, la démocratie.
Oui, parce que Tocqueville va en fait caractériser l'homme démocratique à travers trois traits. Alors caractériser, je dirais, sur le plan de ces fameux risques qu'on évoque. Le premier, c'est l'individualisme, avec une analyse très, très, très intéressante et très importante, je pense, encore aujourd'hui, pour comprendre nos sociétés. À savoir que Tocqueville ne porte pas un jugement moralisateur sur le fait que les individus modernes ont des comportements individualistes, mais essaye de caractériser un trait qui va être tout à fait propre à cette société égalitaire, qui, en octroyant des formes de liberté à chacun, des droits, sépare en même temps les individus. Et fait disparaître des liens qui, en revanche, existaient antérieurement, fussent-ils hiérarchiques.
Vous dites qu'il y a une méfiance exagérée à l'égard des autres dans un cadre démocratique.
Alors, Tocqueville distingue bien l'individualisme de l'égoïsme. L'égoïsme, nous dit-il, bon, est quelque chose de vieux comme le monde, qui est cet amour exagéré de soi-même. Mais l'homme démocratique n'est pas plus égoïste que ses prédécesseurs. Mais il est conduit par la structure même de la société dans laquelle il vit, a un certain repli sur lui-même. Du fait même de ce point de départ du principe de la société dans l'égale liberté. Donc c'est à la fois la force du régime démocratique, mais ça va être aussi son point de faiblesse. Un deuxième point que va souligner Tocqueville, c'est, et très lié à celui-là, c'est le rationalisme démocratique. L'homme démocratique va être détaché aussi de toutes les représentations léguées par le passé, la tradition, etc. Il va apprendre à penser les choses par lui-même en étant séparé, y compris imaginairement, des autres. Et il va favoriser ce mode de pensée rationnel au détriment d'autres formes, comme notamment la forme de la croyance. Et puis, Tocqueville va aussi montrer que l'homme démocratique a une tendance au matérialisme. Il met derrière ce mot, enfin, il ne rattache pas ce mot forcément à des doctrines philosophiques de type matérialiste, mais simplement, il met derrière ce mot le goût très profond de l'homme démocratique pour le bien-être matériel et pour la recherche du confort matériel, des biens matériels.
Et il dit d'ailleurs que les conflits ne sont plus des conflits guerriers, mais des conflits économiques, c'est bien cela ?
Alors, il partage avec beaucoup de ses contemporains l'idée que la guerre va disparaître, que c'est un concept archaïque, que finalement, d'une certaine façon, le commerce instaure un mode d'échange plus doux, plus pacifique, mais il voit, à la différence de certains libéraux de l'époque qui voient effectivement dans le commerce une sorte de porte de sortie de la guerre, un risque également dans cette société commerciale et industrielle qui, finalement, risque de river les hommes à cette dimension strictement matérielle et leur faire perdre une part de leur humanité, une part de leur vraie liberté. Et donc engendrer des risques tout à fait importants par rapport à ce qu'il estime être, du ressort proprement de l'être humain et aussi de la participation politique qu'offre la démocratie précisément aux hommes à partir du moment où elle instaure cette égale liberté.
Alors, venons-en, si vous le voulez bien, aux remèdes, parce qu'il y a fort heureusement des remèdes. Vous vous attardez sur l'instruction, le rôle de l'instruction, sur le rôle de la commune, sur le rôle des associations. Tout cela, ce sont des choses qu'il voit aux États-Unis. Mais en dernière analyse, vous mettez l'aspect religieux en avant. C'est le cœur de votre livre. Quel est le rôle de la religion en tant que contrepoids justement aux dérives de la démocratie.
L'intérêt de l'analyse de Tocqueville, c'est que c'est une analyse non théologique. C'est une analyse qui va se situer sur le registre sociologique d'abord, et anthropologique, on pourrait dire. Et Tocqueville essaye de réfléchir finalement au rôle que peut avoir la religion dans l'espace démocratique, et notamment par rapport à cette question de la citoyenneté qui le préoccupe. D'abord, hein, parce que finalement le risque majeur, si on résume tous les risques, c'est ce risque de déliaison et que les hommes finissent par vivre tellement sur leur sphère privée qu'au fond ils délaissent ce qu'ils viennent d'instaurer, à savoir leur capacité à élaborer ensemble un destin commun.
Et ça signifie qu'il a un souci moral et éthique ?
Bien sûr, oui. Et alors, comment va fonctionner, pourquoi Tocqueville s'intéresse-t-il à la religion ? Eh bien, il y a cette grande préoccupation chez lui de constater qu'en France, la société démocratique qui est en train de se mettre en place se fait contre la religion. Et se fait, on pourrait dire, dans un combat très, très serré entre différentes forces. Les forces antidémocratiques sont souvent religieuses et les forces démocratiques sont souvent antireligieuses.
Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis.
Voilà. Alors, aux États-Unis, il va voir tout à fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il va avoir une démocratie qui a des racines religieuses, en partie seulement, évidemment, mais qui a ménagé une place tout à fait différente à la religion. Il l'exprime à sa façon en disant qu'il voit l'esprit de liberté et l'esprit de religion marcher ensemble là-bas. Donc, sans vouloir copier le modèle américain, puisque Tocqueville est toujours tout à fait conscient de la spécificité historique de chacun des pays qu'il a analysés, au moins ce modèle peut-il relativiser le cas français. Et on voit que Tocqueville a essayé de dépasser finalement ce que le sociologue Émile Poulla aujourd'hui appelait la guerre des deux France, et de sortir de cette guerre des deux France et de réfléchir donc à la place que pourrait tenir la religion. Donc il va adopter, je dirais, le point de vue inverse de celui qui est le plus répandu, à la fois chez les penseurs de son temps, enfin en partie, disons, chez les plus démocrates, et puis, de façon générale, on pourrait dire, chez les philosophes modernes, hein, comme quoi, finalement, il y aurait une antinomie entre religion et modernité, ou entre religion et démocratie.
C'est ce qui fait l'actualité de sa pensée, et c'est ce que nous allons voir dans un instant.
Canal Académie. Vous écoutez Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Éclairage reçoit Agnès Antoine, philosophe, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales et auteur du livre « L'impensée de la démocratie » paru chez Fayard, un livre primé cette année par l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, nous évoquons un des aspects majeurs de la pensée tocquevillienne qui est le fait religieux. Il y a chez Tocqueville, enfin Tocqueville pense qu'il y a une naturalité du sentiment religieux. On peut le lier à Aristote sur ce point ?
Alors Tocqueville pense effectivement qu'il y a une naturalité du sentiment religieux. Il part en fait d'une autre naturalité, on pourrait dire, qui serait celle du sentiment de finitude. Hein. Tous les hommes, estime-t-il, expérimentent leur finitude, le fait d'être un être fini, et on se désire de dépasser cette limite. Et donc, on soit habité par un désir qu'on peut appeler différemment, désir d'infini, désir d'immortalité, hein, puisque la mort, l'idée de la mort est quand même ce qui figure le mieux cette limite. Et donc, ils sont préoccupés par cette quête de dépassement. Et Tocqueville va caractériser ce désir en l'appelant sentiment ou instinct religieux.
Mais est-ce qu'il n'a pas peur de se retrouver en face d'un mur qui serait l'indifférence religieuse ? Est-ce qu'il a pensé à cette indifférence religieuse ? D'ailleurs, il n'est pas le seul à y penser, je crois, c'est de l'amener à y penser également.
Tout à fait. En fait, Tocqueville développe certains passages très, très intéressants sur, effectivement, l'indifférence démocratique et comment... c'est quelque chose qui advient en quelque sorte sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que l'homme qui naît dans une société démocratique va être en quelque sorte influencé par le cadre intellectuel et social dans lequel il est et va être, s'il avait des croyances, conduit presque sans s'en apercevoir vers une forme d'indifférence. Et s'il n'avait pas de croyance, vivre en quelque sorte dans cette indifférence. Alors Tocqueville est sensibilisé à cette question par le grand essai sur l'indifférence de Lamennais, qui a été un ouvrage qui a eu une très très grande influence dans le premier 19e siècle. Mais on voit qu'il l'aborde de façon différente, c'est-à-dire que Lamennais est un théologien, est un apologète aussi qui fait un ouvrage polémique pour réveiller les âmes et donc il y a un discours par moments assez moralisateur sur la condition moderne, alors qu'on voit que Tocqueville va reprendre certains thèmes et dont ce thème fondamental de l'indifférence, mais sous un angle d'approche totalement différent. C'est ce que je soulignais tout à l'heure avec la différence individualisme et égoïsme. Il s'agit bien davantage d'étudier, au fond, ce qui conditionne les êtres humains dans une certaine direction et peut conduire effectivement à des grandes pertes de liberté, plutôt que d'émettre un jugement sur... ses comportements.
Est-ce à dire, au-delà, que pour Tocqueville, la religion se doit d'être utile ?
Alors, c'est un mot qu'il n'hésite pas à employer, en effet, qu'on lui a beaucoup reproché, parce qu'au fond, on pourrait soupçonner Tocqueville, du même coup, de vouloir, de façon très politique, instrumentaliser le religieux. Hein. Il y a toute une tradition de la philosophie politique depuis Machiavel, et même depuis d'ailleurs l'Antiquité, Cicéron écrivait déjà là-dessus, qui envisage finalement le religieux sous l'angle d'une aide utile aux politiques, mais qui serait finalement soumis à la chose politique. Hein. Ça serait finalement le politique qui utiliserait le religieux pour asseoir son propre pouvoir, et notamment... Dans ces cas-là, on souligne tout ce qui est du registre de la crainte. On va s'intéresser au religieux parce qu'au fond, il peut instaurer une forme de crainte salutaire chez les hommes et les conduire à obéir à des autorités qui, du même coup, se réclameraient d'une certaine légitimité reliée au divin. Alors, Tocqueville n'est pas dans cette tradition, même s'il a l'air... à certains égards, de flirter avec. Il reprend l'idée d'utilité du religieux, mais pas dans le sens d'une domination du politique sur le religieux, au contraire, puisque tous les avantages qu'il va souligner, les avantages de la religion qu'il va souligner à l'égard de la démocratie, ils ne sont possibles, ils ne fonctionnent à ses yeux que lorsque précisément... religion et politique sont séparées sur le plan à la fois institutionnel et juridique. Donc c'est le paradoxe de sa pensée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une très claire séparation sur ce plan-là, juridique et institutionnelle pour que quelque chose de l'ordre de la complémentarité, de la fécondité réciproque puisse s'instaurer entre ces deux dimensions. Il dit ça à un moment où on est dans un régime de concordat.
Et d'ailleurs, vous le rapprochez de Portalis, qui lui aussi était un peu à cheval entre deux mondes, entre l'ancien régime et la démocratie, l'empire, etc.
Oui, mais j'essaie de montrer que Portalis a un point de vue plus utilitaire, précisément, d'utilisation du religieux par la sphère politique.
Vous avez une très belle expression, vous dites qu'il est davantage, Tocqueville demeure plus augustinien que machiavélien.
Oui, alors c'est mon interprétation, parce qu'il faut bien vous dire que cette question la pensée de Tocqueville sur la religion a donné lieu soit à une absence totale de commentaires, ce qui était un moyen d'évacuer cette partie de la pensée de Tocqueville, soit à des commentaires très contrastés. Où justement certains commentateurs soupçonnent Tocqueville d'avoir un point de vue machiavélien. Donc moi, mon interprétation effectivement a été de prendre plus au sérieux en quelque sorte cette pensée de Tocqueville, en m'appuyant d'ailleurs sur ce que Tocqueville écrit lui-même dans sa correspondance ou dans divers écrits privés, c'est sur cette grande préoccupation très forte chez lui, qui je pense est vraiment un peu le fil rouge de son œuvre, de vouloir réconcilier ce qu'il appelle liberté et religion.
Vous citez, page 261, un mot de Tocqueville à Kergolé qui était un de ses amis. « Toute philosophie ou toute religion qui voudra négliger entièrement l'âme et le corps produira quelques exemples extraordinaires, mais elle n'agira en grand sur l'humanité », écrit-il en s'adressant à Kergolé. « Voilà ce que je crois et ce dont je gémis, car tu sais que sans être plus détaché qu'un autre de la bête, j'adore l'ange et que je voudrais à tout prix le voir prédominer. Je me travaille donc la tête sans cesse pour découvrir s'il n'y aurait pas entre ces deux extrêmes, l'ange et la bête, un chemin moyen où l'humanité pût se tenir et qui ne conduisit ni à Héliogabale ni à Saint Jérôme. » Et alors, il cite là, en fait, il fait référence à Pascal, et c'est une des constantes de votre livre, c'est que vous situez Tocqueville, j'allais dire, dans la lignée de Pascal. Vous en faites un continuateur, je me trompe ?
Non, vous ne vous trompez pas. Pour moi, c'est quelque chose qui m'est apparu de façon très évidente. Tocqueville le dit lui-même, finalement, il y a trois auteurs qui comptent énormément et qui ne sont jamais très loin de son chevet. C'est Pascal, c'est Montesquieu et c'est Rousseau. Et curieusement, on insiste toujours beaucoup sur Montesquieu, avec raison, notamment sur le plan de la méthode et de l'approche de la science politique. Mais, alors, on cite Pascal, mais, Tocqueville ne cite jamais beaucoup. Alors, dans la mesure où il n'y aurait pas beaucoup de citations explicites, ça serait peut-être un lien un peu ténu. Alors que, quand on a l'habitude de lire Pascal et quand on a l'habitude de lire Tocqueville, on voit la présence de Pascal dans la prose de Tocqueville, même dans sa manière d'écrire, presque. Cette prose très balancée, cette oscillation, toujours que permet la comparaison entre les deux mondes aristocratiques et démocratiques, qui n'est pas sans évoquer des balancements pascaliens, toujours entre ce que vous évoquez, c'est entre l'ange et la bête. Et donc j'ai tenu à marquer cela, toujours pour l'inscrire dans cette tradition des moralistes, et donc de ces penseurs qui ont vraiment pris à bras le corps la question de la condition humaine, de la question de la nature humaine, liberté de l'homme, du destin de l'humanité aussi.
Oui, il est en quête d'un humanisme.
J'ai employé ce mot, Tocqueville ne l'emploie pas, mais je pense que c'est un mot qui qualifie bien sa pensée.
Oui.
Alors, vous évoquiez Augustin, et moi j'évoquais Rousseau, et on voit très bien, alors Tocqueville, lui, ne le voyait pas, parce qu'il ne cherche pas à faire de l'histoire de la philosophie, mais quand on se penche sur son œuvre et qu'on voit cette présence de Pascal, mais aussi ce dialogue très profond avec Rousseau, quitte à s'éloigner de lui, mais Tocqueville est très très imprégné de l'anthropologie rousseauiste, J'y vois pour ma part une sorte de lignée, de filiation augustinienne, non avouée d'ailleurs par Rousseau, mais c'est une sorte de présence, une forme de lecture du monde, de questionnement qui sous-tend la pensée de ces auteurs.
Il nous reste que très peu de temps, malheureusement. Est-ce qu'on peut dire que Tocqueville est un fataliste ? Parce que on a évoqué de la démocratie en Amérique. Dans l'Ancien Régime et la Révolution, il est plus pessimiste, non ?
Alors, il y a toujours plusieurs lectures de Tocqueville. C'est ça qui est passionnant, d'ailleurs. Mais bon, certains le tirent quelquefois dans ce sens pessimiste. Et c'est assez facile. On peut toujours aller chercher des phrases de Tocqueville, effectivement, où il s'inquiète avec plus qu'angoisse de la future destinée de l'humanité. Et en même temps, il y a des phrases tout à fait claires où il dit qu'au fond, s'il n'était pas habité par une très profonde espérance, il n'aurait jamais pris la plume.
Et cette espérance est chrétienne ?
Alors, ça serait certainement aller trop vite que de mettre cette étiquette directement sur la pensée de Tocqueville. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelqu'un qui a été très marqué par, on pourrait dire, l'anthropologie, la morale chrétienne, qui se pose lui-même beaucoup de questions et qui a été très très travaillé par la question religieuse. Et notamment, sa réflexion est ancrée dans un questionnement par rapport au christianisme, précisément. J'ai écrit dans mon livre qu'il est un peu sur un seuil. C'est comme si c'était un lieu autour duquel il n'avait cessé de tourner. Il a été éduqué, il a une éducation catholique, on pourrait dire. Il a perdu la foi, jeune homme, en lisant les philosophes des Lumières. Et puis ensuite, on voit qu'il y a toute une quête existentielle avec un désir de retrouver cette foi. Et cette foi chrétienne, et puis une difficulté par rapport à, on pourrait dire, la dogmatique, la manière dont s'exprime la foi chrétienne de son temps, dans une certaine dogmatique contre laquelle il bute. On pourrait dire qu'il n'a jamais retrouvé, au sens proprement religieux du terme, cette foi. Voilà, mais il y a un univers de pensée qui est coloré effectivement par le christianisme. Oui.
Eh bien, Agnès-Antoine, je vous remercie. C'est sur ce seuil que nous allons laisser nos auditeurs et nous les incitons vivement à aller vers l'œuvre de Tocqueville, donc de la démocratie en Amérique que l'on trouve très facilement en livre de poche, et l'Ancien Régime et la Révolution. Je rappelle à nos auditeurs, toujours, que vous êtes l'auteur du livre « L'impensé de la démocratie, Tocqueville, la citoyenneté et la religion » paru aux éditions Fayard en 2003, un ouvrage qui a reçu le prix Gegner, un prix réservé aux écrivains philosophes. Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Merci et à bientôt.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.